Bonsoir et merci d'être là pour la troisième journée du festival Ritournelle avec la librairie Mola. Et nous recevons donc ce soir deux très grands écrivains. Deux très grands écrivains dont je dois dire que, en ce qui me concerne en tant que lectrice, à chaque fois que j'aborde un nouveau volume d'Hubert Lucot comme d'Eugène Nicole, j'ai d'avance la certitude d'un plaisir important de lecture et la certitude aussi de faire une nouvelle expérience. Donc pour moi, c'est assez rare en fin de compte, même quand on lit beaucoup. Et c'est pourquoi je suis ravie de les recevoir tous les deux. Alors je précise aussi que tous les deux se connaissent depuis de très très longtemps. Ce sont deux grands amis. Ils ont tous les deux chacun a suivi l'œuvre de l'autre. Il s'agit de deux œuvres à caractère autobiographique qui s'inscrivent sur les années, sur le temps et même sur une vie. Ce sont des œuvres qui sont chronophages et tout ça participe en fait au plaisir de lecture. Tous les deux aussi sont très attachés à l'œuvre de Proust. Jeanne Nicole est spécialiste en tant qu'universitaire et même spécialiste de Proust. Il a participé aux éditions de la Pléiade de Proust. Hubert Lucot a toujours dit son attachement à l'œuvre à la recherche, mais aussi à l'œuvre balzacienne. Et puis tous les deux aussi sont réunis ce soir parce que dans le cadre de cette édition du Festival Ritournelle qui tourne autour du dialogue entre la littérature et les arts, et les arts contemporains, tous deux aussi ont une pratique artistique qui ne met pas beaucoup en avant, enfin récemment un petit peu. Hubert Lucot pratique le collage depuis de très nombreuses années, parallèlement à son travail d'écriture. Et Eugène Nicole également a commencé très tôt à dessiner, à peindre et à pratiquer le collage. Mais je voudrais surtout vous présenter, je voudrais surtout les entendre tous les deux, parler du livre, de chacun d'eux, du livre qu'ils viennent de faire paraître. Donc Hubert Lucot publie deux livres au mois d'octobre, Je vais, je vis, qui est un texte magnifique que j'ai lu avec des larmes dans les yeux. Et puis, parallèlement, il réédite un livre qu'il a publié chez son éditeur, aux éditions POL également, qui s'intitule « Autobiogre d'AM75 » au format poche. En ce qui concerne Eugène Nicole, Les eaux territoriales, qui viennent de paraître également aux éditions de l'Olivier, et le sixième opus d'une œuvre donc autobiographique et très, très importante et très belle, qui s'intitule L'œuvre des mers. Alors, je vais d'abord. Hubert Lucot avait envie de prendre la parole rapidement. On va commencer par Hubert. J'ai envie de commencer aussi à présenter ce très beau livre que Hubert Lucot vient de publier, parce qu'il est question dans ce livre, qui est un livre sur l'amour, qui est un livre sur le désir et sur le temps. Il est question dans ce livre d'Anne-Marie Lucot, qui a été donc l'épouse d'Hubert Lucot, que j'ai personnellement connue. Et c'était une femme admirable. Ce livre lui est entièrement consacré. Toute l'œuvre d'Hubert Lucot consacre à Anne-Marie Lucot, qui est son personnage central, toute l'épaisseur des feuilles des livres. Mais ce livre est bouleversant. Il vient d'en parler tout à l'heure dans l'enregistrement, donc pour la petite vidéo de la librairie Mola. Je vais lui laisser la parole quelques instants, peut-être pour d'abord quelques extraits de lecture, afin qu'on puisse entrer tout de suite dans le vif du sujet.
Alors je lirai pendant un quart d'heure deux livres. Donc deux livres, huit dates. 1934, Annie B. est née à Gabès, en Tunisie. Elle deviendra Anne-Marie Lucot, AM. 1934, 1935, Hubert Lucot naît à Paris, à Chelles. 1955, il se rencontre dans le sanatorium des étudiants à Saint-Hilaire-du-Touvet, près de Grenoble. 1958, il se marie à Paris. 1975, Achel écrit Autobiogre d'AM75. 1980, Paul Otschakowski-Laurence, POL, publie ce livre dans la collection Hachette POL. Août 2012, AM meurt d'un cancer du pancréas après 2 ans et demi de traitement. Printemps 2013, POL décide de publier « Je vais, je vis », le récit de la maladie et de la mort d'AM, en même temps qu'autobiogre d'AM 75. Je vais lire un extrait d'autobiogre d'AM 75. Maintenant, matin d'été, elle était entrée dans la chambre, ayant marché, monté, cherché à l'intérieur du grand hôtel à Marseille. J'avais à peine pénétré dans la métropole de terre et de barque, vedette, quai, la ville Marseille, ce début d'août 1957. Annie, curieuse, tant attendue, des lettres, des ans, inattendue estivante, A, se décidera-t-elle à, mais non la culotte, je l'ôte sous le drap, non pas ce matin, mais quand elle revint, quelques heures plus tard, la chaleur du jour, le rôle lointain, éclaté, l'importance d'un acte, réfléchi, trop, l'alliance, la réflexion, dessein, destin, un long voyage, chaque jour le même, répété, divers, nous avançons, bientôt une femme, pas encore ma femme, la jeune fille tout à moi, celle qui entre sous la lampe et la soupière centrale, le soir, parmi des gens. C'est un extrait donc d'autobiogre d'AM75. Ce livre a 670 pages et le résumé a quelques lignes que je vais vous lire. Pendant plus d'un demi-siècle, un homme et une femme ont vécu un roman d'amour, parfois tumultueux. Il a 75 ans. Elle a 76 ans. Une équipe médicale détecte chez elle un cancer en mars 2010. Il l'accompagne de sa personne et de toute son écriture. Souvent, celle-ci s'attarde sur les beautés et les malheurs de notre planète, sur les mystères de l'être et du temps, captant la sensation brève et le sentiment long. Elle meurt le 9 août 2012. Ses cendres sont dispersées en Gironde, dans l'océan. Page 93. Dans l'hôpital des 15-20, mon opération de la cataracte constitua un moment d'autant plus agréable qu'on devança les temps prévus. Départ à 9h15, ce 25 mars 2010, dans les annexes du bloc opératoire, lequel se révélera une simple chambre. Arrivé dans le bloc avant 10 heures. Le docteur Liam Trin me parle en ami sur fond de jazz chanté. L'acte opératoire occulte tout, sauf l'intérieur de l'œil droit, dont Trin remplace le cristallin. Les couleurs, bleu, blanc, rouge, adouci, beaucoup plus pauvres et sans extension, ont des mouvements moindres que dans l'œil gauche le 16 juin 2008. Une pyramide blanche de quelques centimètres de large occupe un trou central dont la paroi mêle le rouge et le bleu. Un gros blanc. Contrôlant ma vie, 6 jours après l'opération, le docteur Trin m'interrogea sur la santé de ma compagne. Grave, sans nulle pause, Il énonce le longtemps d'une lutte commune dont je me dis qu'elle n'a pas encore commencé. Les experts se concentrent avant de donner le départ d'une aventure thérapique dont nul ne sait l'issue. Dr. Trine n'avance que du vrai. Dépistage difficile, le foie et l'intestin cachant le pancréas. Délicatesse et brutalité de la chimiothérapie, car on exclut la chirurgie. La grande concentration de son visage aux traits fins sur l'objet à trois faces, le mal, la malade, moi, ne représente pas la douleur. Deux yeux vifs et une voix aimable dessinent l'avenir proche de celui, moi, qui devra aider sa compagne. Nous sommes dans l'abstrait, pas vraiment. Je soupçonne la réalité des nausées, des fatigues, du moral détestable. Docteur Trine, maintenant de profil, il avait examiné mon œil de face, et la première image de mon combat. Je devais faire de l'humour, j'ai glissé. J'espère que je ne serai pas ridicule. Réponse lucophile, vous ne serez pas ridicule, monsieur Lucot. J'explique que selon Henri Michaud, l'empereur de Chine donnait une unique recommandation à l'ambassadeur qu'il envoyait au bout du monde, ne sois pas ridicule. C'était, j'en suis là, page 95. Nous allons sauter à la page 593. Mardi 17 avril 2012, soit deux ans après la scène précédente, 11h50. Flanque un beau visage, charmant foulard de femme au foin ou au volant de la décapotable, le slogan « chouchouter sa peau pendant la chimio ». Nous voici de retour dans le large couloir d'attente du pavillon oncologie. Nous attendons. Elle est éloignée. Ma lecture détaille la fichette de Rose Magazine, zone après zone, autour du visage souverain de la femme au fichu. En gros, mieux vivre pendant le cancer. En petit, annoncer la maladie à ses proches. En petit, chic, les dessous s'adaptent. Rose signifie féminin. J'ai apporté à M le croque-monsieur chaud acheté dans la cafétéria du grand couloir de l'hôpital. AM me conseille d'aller déjeuner. Petit couscous au bord du marché d'Aligre. Y être allé frileusement. Ainsi en revenir. 15 heures. AM est en conférence avec une jolie jeune femme, assise près d'elle comme le serait une manucure. Elle traite des goûts et des saveurs. Dépêchée par la cancérologue Madame Servin, qui a noté l'amaigrissement d'AM, tombé au-dessous des 60 kilos, la diététicienne Aurore conseille à AM toutes les délicatesses et petites cochonneries interdites aux autres. Passant sa langue rose sur ses lèvres roses et montrant ses blanches quenottes, Aurore prescrit à AM une vie de petit four du matin au soir. Libéré des deux gros repas rébarbatifs, voire révulsants, AM glissera depuis un clafoutis jusqu'à un bouquet de crevettes. Comme une infirmière survient, mon regard montant suit son regard vers la poche en plastique qui écoule son contenu chimiothérapique dans les veines de ma compagne. Elle est encore pleine à moitié. L'infirmière me conseille d'aller faire un tour. La séance s'achèvera à 16 heures. L'heure de retard toute ronde, 15 heures, 16 heures, m'intrigue. La maladie m'a souvent confronté au paradoxe des causes, effets et durées. Prenant le métro direct, je vais tuer le temps en province, dans la bonne ville de Charenton. 15h16, je sors du métro Charenton-École dans un monde aérien. Derrière deux hautes maisons rurales, au fond de la brèche et au-dessus d'elle, un jeune noir athlétique en combinaison bleue et au casque jaune clair déambule en haut d'un échafaudage sous une grue mobile qui pourrait accrocher ses sangles blanches pour l'élever dans le ciel. Un panneau m'indique que la construction hébergera une fondation du Qatar. Soleil, élancement de l'ouvrier. Je vois celui-ci recevoir en salaire des dollars pétroliers que, batteur, baseball, il répercute à ses frères et sœurs restés au Mali. Je ressens le pointillé des relations. Pétrole, dollars, Qatar tourné vers l'Occident, ouvrier tourné vers l'Afrique. Pendant plus de 2 ans, mon livre s'est nommé « Relations ». Alors qu'il s'achève, le titre « Personnalité » personnalisé « Je vais, je vis » s'est imposé en douceur. Ce matin, la cancérologue Madame Servin a songé à adoucir les fosses nasales de sa patiente, attaquée par la chimie. J'entre dans la pharmacie de la rue de Paris, à Charenton, pour acquérir une fiole d'huile goménolée. S'ouvrant à mon corps, la porte automatique émet la petite musique qui caractérisait l'ascenseur dans la villa Kujoyama de Kyoto, utilisée dans une canicule qu'abolirait la climatisation de notre studio. Mais la réminiscence réflexe me donne Saint-Hilaire-du-Touvet et Grenoble. Je comprends que le froid humide qui ensevelit Charenton a lavé mon souvenir de la chaleur tropicale pour ne retenir que l'essence montagnarde commune au Kansai et à l'Isère et la rajeunir de 40 ans, 1995-1955. Ayant écrit cela sur le comptoir d'un café provincial, je reprends le métro vers l'hôpital. Depuis le 16 février au matin, la réponse téléphonique d'AM à une amie demandant prudemment « comment ça va ?» n'a pas quitté mon esprit. Je vais, je vis. À ces mots, j'associe l'avenir. Je vais, je vis. Oui, je veux bien. Oui, Tivolio, bene, je t'aime. Plus loin encore, page 593. Vendredi 3 août. Deux délires d'AM. Avant l'arrivée de l'infirmier à 19h30, elle prononce sans angoisse, c'est du barbouillage méditerranéen. Maintenant, 20h15, elle m'appelle. Disons-le et nous n'en parlerons plus. Il y a une petite villa en Italie. Elle répète, il y a une petite villa en Italie. Alors qu'elle sort de la somnolence anxieuse, pour une anxiété plus forte, à 23h, j'annonce à AM l'heure des médicaments, donnés un à un, chacun longtemps refusé, pas encore. Tordant le verre d'eau que je maintiens, elle répète où on est. Je lui réponds avec calme et clarté. Elle martèle, on est à la maison, on est encore à la maison. Elle posera avec force la question. Je lui répondrai, elle martèlera, on est encore à la maison. Elle se raccroche au verre vide, comme si je voulais le lui arracher, l'arracher, elle, à la maison. 0h20. Je vais aller me coucher, je m'approche de son lit. Elle prononce distinctement, arrête le temps. Puis, pourquoi tu as bougé quoi que ce soit? Il s'agit probablement des nouveaux médicaments. 0h25. Il y a une petite villa en Italie, avait-elle dit. Je pense soudain aux magnifiques photos de la matérialité dans le Val d'Anza, prises il y a quelques jours par son frère Albert, qui avant hier soir les lui montrait sur son téléphone. Vendredi 4 août. Dans la nuit atroce, Cédric fut plus présent que moi, qui me rendormis plusieurs fois. Souvent réveillé, Cédric, notre petit-fils, fut plus présent que moi, qui me rendormis plusieurs fois. Souvent réveillé, je guettais l'accroissement du râle ou un silence qui pouvait être le dernier. 7h01. Le réveil ne sonnera pas. J'arrête le mécanisme et me lève. Quel appétit pour café tartine. AM râlait, ânait, il y eut quelques accalmies. À 7h24, elle a prononcé des mots audibles. Il ne faudra pas m'oublier. 2 fois, de façon confuse, puis... il ne faudra pas oublier de me donner à manger. Sommes-nous en 1948 dans la cave de Carpentras où on a enfermé la pensionnaire rebelle? À 7h30, je n'ai pas identifié immédiatement la voix d'Albert. Je voyais un homme jeune, appartenant au monde littéraire. Qu'a-t-il dit? Je croyais m'en souvenir, je tente une reconstitution. Nous sommes sérieux, nous sommes vertueux, regardons la situation en face. 7h36, l'aide-soignante Saadia a sonné. Je lui ai ouvert, mon téléphone à la main. J'ai continué à parler à Albert pendant quelques instants. Saadia accomplit une toilette complète d'AM, inconsciente. Elle me communique un peu de sa sagesse. Je fais la valise d'AM. 8h20, je raccompagne Saadia à notre porte. Elle me dit avec simplicité, elle est en train de partir. J'attends l'ambulance. Cette institution a toujours du retard. Pour la première fois, j'attends. Non pas, nous attendons. 8h30. Une grosse infirmière et un noir de 45-50 ans, extrêmement costaud, surviennent brutalement. Le colosse saisit AM sportivement et la place en position cassée sur la chaise roulante appartenant à l'ambulance. La grosse blanche et le puissant noir portent la chaise sur laquelle AM est assise en chemise de nuit. Ce groupe fragilement sculptural traverse la rue, notre rue. Un brancard est coulissé sur l'asphalte. Couvert par AM, allongé, le brancard coulisse vers l'intérieur. J'ai ouvert une parenthèse, le noir l'a fermé. Ne vous inquiétez pas. J'ai articulé avec un sourire. Pourquoi m'inquiéterais-je? Fin de la lecture.
Alors Hubert Lucot, vous avez choisi de nous lire surtout les extraits du livre, oui, qui correspondent à la transcription presque clinique de la maladie de votre épouse.
Oui.
Il faut quand même préciser que ce livre, que ces pages-là, oui, sont mêlées à d'autres pages, à d'autres fragments de ce journal de 2 ans et demi,
oui,
qui font appel à d'autres images, des images du passé, comme vous l'avez toujours fait dans tous vos livres, c'est-à-dire ce télescopage qui fait que des images du passé et des images présentes, immédiates, vont naître l'émotion, ouais, en fait.
Oui, j'ai peut-être mal choisi. Il y a une foule de passages. Notre union charnelle de 1957, qui est toujours présente, enfin, et même j'emploie encore le présent,
apparaît à plusieurs reprises dans le livre.
Apparaît, oui, extraordinairement. Enfin, et pas seulement ça. Enfin, tous les systèmes de traitement du temps, de parcellisation du temps dans le présent, je dis fréquemment et sincèrement que dans chaque jour, je vis une dizaine de madeleines proustiennes. Et au lieu de les censurer, je les intègre à la traversée d'une rue, à une montée dans un tramway, une discussion avec un boucher, etc.
Vous écrivez même précisément dans « Je vis », oui, « Mes livres ont généralisé la petite Madeleine ».
Oui, 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 je cite souvent cette Madeleine, ou Pavlov, j'ai inventé le mot « un Pavlov », comme on dit « un Alzheimer ». Un Pavlov, c'est la réminiscence pavlovienne du chat qui salive quand on agite une clochette, parce que autrefois on avait agité une clochette alors qu'on lui donnait à manger.
Alors personnellement, connaissant l'ensemble de votre œuvre, à travers Je vis, j'ai senti que quelque chose avait bougé au niveau de la perception et en tout cas au niveau de ce que vous aviez à dire, en fait, à écrire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que là, vous venez de lire. Vous n'avez choisi là pour lecture que des extraits, ouais, qui présentent la maladie de votre épouse d'une manière donc très clinique, et des extraits qui parlent du corps, qui parlent de la chair, ouais, et Il me semble que dans votre précédent livre, bien sûr, il y a toute une constellation lucossienne dans vos livres. Il y a énormément de personnages, dont beaucoup de personnages de votre famille qui apparaissent. Ouais. Mais le narrateur de vos précédents livres était beaucoup plus, me semble-t-il, distant. Même si l'émotion, même si toujours ce télescopage de souvenirs faisait naître l'émotion, là, j'ai l'impression que le narrateur est un peu submergé d'une certaine façon, submergé par le, par un autre type de perception qui se rapporte plus justement à des notions comme le corps, mais le corps vivant. Ouais. Peut-être qu'il se rapporte plus au vivant, alors qu'on parle de la mort et de la maladie.
Oui, mais le temps aussi, une saisie du temps presque plus naturelle. Je parlais beaucoup de. Du temps et de la multiplicité des temps, alors que là, je fais sentir l'écoulement. Il y a un passage que j'aime bien où des barques glissent sur le lac de Ménil, en même temps qu'un homme a une petite fille sur les épaules, qui a un petit pull rose ou framboise, et puis 15 jours se passent, et il semble, mais cette fois-ci, c'est le foulard d'une musulmane dans une barque, il semble que cette couleur framboise était dans l'air et qu'elle s'est tout à coup incarnée dans le foulard de cette, dans cette musulmane. Donc il y a là vraiment un travail du temps, disons peut-être assagi, assoupli par rapport à un traitement cubiste. Mais en fait, je dis toujours la même chose, parce que pour ce livre, bon, qui est très long, donc la lecture est longue aussi, j'ai déjà reçu vraiment énormément de lettres de gens qui connaissent bien, et certaines de ces lettres, très élogieuses, se rapportent finalement à tous mes livres. Les mots « la maladie »,« la mort tragique », etc. ne sont pas employés. Ils ont surtout, même le mot « plaisir », hein, c'était un livre qui très très dur parfois, et le mot plaisir revient dans presque toutes les lettres longues que j'ai reçues.
Oui, le plaisir de la lecture, c'est ça?
Oui, le plaisir de vivre même. Hein.
Oui, mais c'est un livre qui parle du vivant justement. Ah,
absolument, puisque si on désire ne pas mourir, c'est parce qu'on aime la vie.
Et vous disiez tout à l'heure dans l'entretien donc, avec la librairie Mola, vous disiez tout à l'heure que pour vous, c'était surtout un livre sur l'attente. C'était surtout l'histoire de l'attente.
J'ai dit que des choses nouvelles se produisaient, dont j'avais l'habitude, mais tout à coup, elles sont là et c'est très, très surprenant. Être malade, c'est attendre. Et dans le livre que j'écris en ce moment qui s'appelle Sonatine de deuil. À un moment, je dis à quelqu'un, parce que j'attends pour moi dans un centre de pneumologie, non pas que j'ai un cancer du poumon, mais je vais faire des analyses et des vérifications constantes. Deux ou trois personnes et moi, nous attendons depuis plus d'une heure. Et je dis, toujours attendre, c'est à vous dégoûter d'être malade. Donc cette attente avant d'être malade, je veux dire, ou avant même qu'on vous dise où vous êtes mourant ou que vous n'avez aucune chance de survivre ou vous allez guérir, attendre, on attend dans des couloirs toujours les mêmes. Ou plus, ça peut être le scanner, on attend au scanner, on attend à la chimiothérapie pour voir la personne qui vous donnera le feu vert de la chimiothérapie. Si le bilan sanguin n'est pas bon, pas de chimiothérapie, etc., etc. Donc l'attente est importante, mais de même autre chose, autre découverte dans cette époque, à l'époque actuelle où tout le monde, enfin de l'extrême droite à ce qu'on peut appeler la gauche, s'interroge sur ces immigrés, sur cette présence importante du tiers-monde dans la population française. Là, à l'hôpital, on voit encore plus toutes les nations. Là, dans ce que je viens de lire, c'est l'enregistrement très clair. Il y a une algérienne, une autre algérienne, du reste, c'est pas dit, un noir africain. Donc, on peut dire que tous les travaux, toutes les choses importantes de la vie sont faites par dans les hôpitaux, balayeront le couloir, la quatrième catégorie, la catégorie la plus basse des immigrés. Donc le fait d'être malade, le fait de fréquenter les hôpitaux fait découvrir une foule de choses, et il fallait que j'en rende compte. Alors, jusqu'à la bêtise des publicités pour le cancer, pourrait-on dire. La Rose Magazine, les dessous féminins des cancéreuses. Il y avait des slogans que vous avez peut-être vus qui sont affichés partout, qui étaient affichés partout dans Paris, pour expliquer qu'un cancéreux ne doit pas être banni, ne doit pas être exclu. Il y avait ce slogan « Est-ce que j'ai une tête de cancer ?» CF atmosphère, est-ce que j'ai une tête d'atmosphère ? C'est-à-dire que le cancer est devenu vraiment un fromage qu'on tartine dans tous les sens. S'il n'y avait pas eu cette anecdote, je crois que j'aurais quand même été sensible à est-ce que j'ai une tête de cancer. Enfin, on découvre des tas de choses. Donc, c'est... Voilà. Je
pense que je... Moi, que je... Juste une dernière chose par rapport à Je vais, je vis, parce que... Oui. Bon, on évoque des détails du livre, mais moi, j'aimerais surtout que les futurs lecteurs découvrent un peu la vraie substance. Oui. Et alors, quand j'ai découvert ce livre, j'avais vu, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, le film d'Heineke, qui s'intitule « Amour
oui. »,
hein,
oui,
et qui est sorti
cancer, hein.
un peu, en même,
oui,
j'en un peu dans la même période où vous écriviez ce livre et Heineke sortait son film.
Oui, moi, j'en parle dans « Sonatine de deuil », oui. Ouais. Alors là, c'est l'absence de corps, l'absence de concret. En fait, toute l'histoire du film, c'est les malheurs de l'accompagnateur. Et il ne fait pas la cuisine. Moi, j'ai fait la cuisine. Et je ne torche pas sa femme, etc. Sauf un moment dans les toilettes. C'est un bon film, joué par de bons acteurs, mais il n'a pas d'art cinématographique.
Je parle plus de l'intention. Enfin, l'intention d'amour, c'était quand même de raconter d'une manière un peu brutale ce que c'est que l'amour, ce que c'est que l'être vivant et ce que c'est que mourir.
Oui,
non
oui, mais là, c'est Alzheimer, plutôt. C'est pas ce que c'est comme maladie, du reste. C'est un film qui fait une heure et demie. En une heure et demie, on n'a pas le temps de dire grand-chose.
Non, mais j'ai pas envie de comparer les deux créations, en fait, parce que je pense qu'elles sont très différentes et je pense que vous allez beaucoup plus loin avec votre livre, justement.
Oui, maman.
Je vais présenter Eugène Nicole, donc, qui a démarré lui aussi une œuvre en un certain nombre de volumes, donc en 2004, hein, qui a publié sous. Différents opus, donc une œuvre qui est devenue une œuvre avec un titre magistral qui s'intitule, le titre est magnifique, hein, L'œuvre des mères. Et donc Eugène Nicole publie le sixième volume de ce travail qui tourne autour de l'autobiographie et les eaux territoriales. Alors le titre de ce nouvel opus de L'œuvre des mères, en fait, fait plutôt penser à la géopolitique. Alors, on est au départ de l'œuvre. Hein, je rappelle un petit peu l'histoire. C'est une œuvre qui a pour sujet Saint-Émiclon, donc un archipel, hein, l'archipel où Eugène Nicole a passé son enfance jusqu'à l'âge de partir au lycée. Et donc, il a consacré plusieurs volumes à décrire la vie de l'archipel, mais en faisant bien sûr appel à ses souvenirs. Donc, on est vraiment dans une œuvre qui traite justement du souvenir, de la mémoire, du travail de la mémoire et de l'autobiographie. Et là, dans ce volume, il s'est passé quelque chose de nouveau. On a d'abord découvert aussi cette constellation de personnages, parce que l'œuvre des mères, c'est l'histoire de l'archipel, c'est l'histoire des lieux, c'est l'histoire des personnages aussi qui ont peuplé l'œuvre. Et on va laisser la parole à Eugène, il va revenir un petit peu sur les origines de l'œuvre. Et les eaux territoriales, on a l'impression qu'avec les eaux territoriales, quelque chose s'est peut-être brisé. Est-ce que l'œuvre va pouvoir continuer après les eaux territoriales ? Mais revenons peut-être justement sur le titre, sur ce titre qui fait penser à la géopolitique.
Oui. Et sur le titre des eaux territoriales.
Oui.
Mais peut-être auparavant, je voudrais dire quelque chose sur le titre général, c'est-à-dire l'œuvre des mers, qui est un très beau titre. Je ne l'ai pas imaginé. Je l'avais sous les yeux pendant toute mon enfance. J'ai mis 20 ans à comprendre que c'était le titre de mes livres. C'était le nom de la salle de théâtre paroissiale de Saint-Pierre. Ça s'appelait l'œuvre des mers parce qu'il y avait eu jadis une association philanthropique qui venait donc en aide aux marins de Terre-Neuve qui s'appelait en réalité les œuvres de mer. Mais nous disions l'œuvre des mers. De sorte que d'emblée, j'ai ici un titre qui n'a pas pour moi le même sens que pour le lecteur qui ignore évidemment ce détail. En ce qui concerne les eaux territoriales, c'est presque un oxymore, hein, les eaux territoriales, mais enfin ça se dit, ça accourt dans le vocabulaire de la géopolitique, effectivement. Il se trouve que le droit de la mer, comme vous savez sans doute, a pris une importance considérable dans le monde contemporain, parce que la mer a toujours été importante, bien entendu, ça a toujours été l'une des sources de la richesse. La chose qui m'a, moi, la chose que j'ai considérée encore comme une de ces bizarreries de la marche de l'histoire, c'est que les grands découvreurs sont d'abord partis sur une étendue qu'ils pensaient être infinie, puis ensuite ils se sont arrêtés pour prendre ce qu'il y avait en dessous, c'est-à-dire le poisson. Et puis aujourd'hui qu'il n'y a plus de poisson, on s'aperçoit qu'il y a encore un troisième dessous, et c'est le gaz et le pétrole qui sont là quelque part. Donc, c'est la raison pour laquelle la délimitation des eaux territoriales a pris une importance considérable. Et j'évoque ici un conflit qui durait entre la France et le Canada et qui, en 1992, a été résolu d'une façon extrêmement préjudiciable à mon archipel natal et qui pose de graves questions sur sa survie. Voilà.
Alors, oui, alors est-ce que les questions... Enfin, donc, dans les eaux territoriales, donc, vous arrivez en... Vous racontez, donc
oui,
voilà, on va reprendre le récit. Donc oui. Vous arrivez en 1988 pour enterrer votre père sur l'archipel.
Oui.
Et vous arrivez en même temps avec votre premier livre,
voilà.
Le premier volume de l'œuvre des mers.
Voilà. Et c'est en quoi il y a ici une torsion supplémentaire, si vous voulez. Hein, j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a fait allusion à l'enregistrement Mola, ça commence par un « nous ». Hein, c'est une autobiographie d'abord collective. Je parle au nom d'un petit groupe. Et puis, de ce petit groupe se détache le « je », et cela correspond précisément au moment où, comme il n'y avait pas de lycée à Saint-Pierre, à l'âge de 14 ans, j'ai dû partir pour suivre mes études en France, et je me suis retrouvé tout seul, tout seul, avec 40 autres pensionnaires, dans un dortoir, mais encore plus seul, parce que j'étais environné de 40 autres pensionnaires, dans un dortoir. Et c'est là, sans doute, que... C'est peut-être une vision rétrospective, mais je pense quand même que non. C'est bien là que j'ai déjà constitué ce système de proximité lointaine que je ressens à chaque fois que j'écris. C'est-à-dire que c'est comme si c'était infiniment loin et comme si j'étais tout près de l'infiniment loin. Alors, le sixième volume, donc, c'est à nouveau trois retours à Saint-Pierre. Alors que le narrateur, moi, parfois, vit à New York, car j'ai ajouté un exil supplémentaire à mon premier exil. Et je reviens donc trois fois en 1988 pour l'enterrement de mon père, et évidemment avec le livre qui va paraître en France quelques semaines plus tard. Et donc, on peut dire que je suis... suis-je dans le livre ou suis-je dans la réalité dont le livre procède, etc. Donc il y a toute une série comme ça d'échanges, de va-et-vient entre une situation assez étrange, en somme, assez intéressante aussi, évidemment. Et puis les retours suivants sont marqués aussi par le fait que j'ai écrit, puisque en 1995, on m'invite à faire un film de 36 minutes qui, dans lequel je retrouve le pays de mon enfance. Et puis enfin, dans le dernier chapitre, je reviens pour l'enterrement de mon frère cadet, mort soudainement. Et je voudrais ajouter à ce que tu as dit tout à l'heure que, oui, bien sûr, je présente des personnages, tout ça. La mémoire, c'est la mémoire, mais j'invente aussi. Et on me le reproche souvent, d'ailleurs, à Saint-Pierre, parce que... quand je dis qu'un caillou est à 6 mètres de la porte d'entrée et qu'il est à 8 mètres, ça ne marche pas. Donc,
oui. En cela, l'œuvre est très proustienne, en fait. On part de...
Oui.
On part de, d'un matériau appartient en partie à la mémoire et des personnages, qui sont... qui forment une sorte de comédie humaine,
oui,
en fait.
Je pourrais citer des tas de, de réflexions proustiennes qui correspondent à... Quand il dit, dans ce personnage-là, il y en a 25, chaque personnage que j'ai créé, et j'en ai créé le très étrange, ont toujours une petite origine réelle. Dans mon enfance, j'ai enregistré des choses comme ça. Il y a un personnage, par exemple, l'instituteur, il est persuadé qu'il est Jacques Cartier. Et il nous entraîne dans son délire, etc. Mais peut-être qu'il est temps que je lise quelques personnes. Je fais tout à coup, j'ai pensé, tiens, je vais faire un petit montage, un petit collage, avant qu'on passe au collage. Donc je vais lire le premier paragraphe, le dernier paragraphe, et puis un autre, situé entre les deux, forcément. Mon éditeur et moi avions imaginé qu'un des voiliers de la course transatlantique partie de Brest le 8 juin, jetterait, 7 jours plus tard, sur le rivage de Saint-Pierre, l'un des exemplaires du premier tome de l'œuvre des mers dont je venais de faire à Paris le service de presse. La télévision locale filmerait l'événement. Maintes tombes du cimetière de Saint-Pierre sont ornées de hublots. Symboles ambigus du désir de reposer à jamais dans la goélette ancestrale ou habile récupération d'épaves, ils sont devenus, au cours des ans, une attraction touristique de la ville qu'évoquent systématiquement les journaux canadiens quand ils rappellent la présence à leur porte du petit archipel français dans le golfe du Saint-Laurent. Le 16 juin 1988, à travers le hublot encastré sur le flanc arrière de notre caveau de famille, je contemplais les cercueils qui en forment la couche la plus récente. Par la petite porte qui s'ouvre sur la même paroi, ont tenté, non sans difficulté, d'y glisser celui de mon père, mort 2 mois plus tôt en France, à Muret, Haute-Garonne. Il venait d'être sorti du dépositoire où on l'avait placé après son rapatriement dans l'archipel, lorsque mon attention fut attirée par un lapin qui, quelques mètres plus loin, sur ma gauche, se faufilait entre les tombes. La pluie qui tombait sans interruption depuis l'aube n'avait cessé qu'à la fin de la psoute. La messe, commencée à 10 heures, avait été ponctuée de coups de tonnerre. Mais le plus puissant pour moi avait surgi du maître-autel lorsque, dans l'officiant vêtu d'une chasuble verte, qui, les bras ouverts, se tournait vers l'assemblée, j'avais reconnu monsieur, mon ancien instituteur. Oui, c'est lui qui te fit l'école, c'est Raymond Harvey, qui se prenait pour Jacques Cartier et que tu avais accompagné en France pour qu'il y fût soigné en 1956, lors de ton premier départ pour le pensionnat de Vendée où tu achevas tes études secondaires, me confirmait-on de toutes parts, lorsque nous attendions les voitures qui devaient nous conduire au cimetière. On s'étonnait que je ne l'ai pas appris. Parfaitement guéri, il avait passé 4 ans au grand séminaire de Chevilly-Larue, dans la banlieue sud de Paris, et l'année précédente, il avait été ordonné prêtre. Mieux vaut ne pas lui rappeler qu'il coiffa un jour devant ta classe, stupéfaite, puis hilare, le bonnet qu'il disait celui du célèbre navigateur Malouin, pour vous lire une dictée basée sur les souvenirs de son voyage de 1535 à Hochelaga, s'exclafa mon oncle Phil. La pluie tombait drue, des sanglots me secouaient, une sorte de mécanique les relançait quand s'avançait vers moi tel ou tel parent, telle ou telle connaissance de jadis. À la mort de mon père se mêlait le retour de monsieur, mademoiselle Marie, ma première maîtresse au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, aggrava ce flot de larmes en me tendant sa main gantée. Me serais-je dès lors étonné qu'une heure plus tard, à l'arrière du profond cénotaphe, sur le flanc opposé duquel nous allions nous recueillir le 21 janvier, jour anniversaire de la mort de notre mère, se soit invité l'humoristique et furtive silhouette de Maître Jeannot. Après tout, celui-ci a une longue et noble expérience de ce genre de circonstances, puisqu'on l'aperçoit croquant une noisette, la queue dressée, dans des mises au tombeau de Mantegna et d'autres peintres anciens. Comme pour me ramener à de plus locales références, l'amiral nous rend visite, a dit Georges, le fossoyeur. Ce jeu de mots un peu simpliste m'a fait sourire. Animal, amiral, pourquoi pas. J'y ai même souscrit, car, se mettant à courir dans cette allée latérale, le lapin avait opéré dans les choses une permutation qui ne le cédait en rien à celle que le fossoyeur venait d'accomplir dans les mots. Tout en attirant mon attention sur un rang de tombes anciennes, que je n'avais jamais remarqué jusqu'alors, il avait fait pivoter de 90 degrés l'axe selon lequel, pour moi, le cimetière s'orientait et qui était celui de cette pente majeure que nous gravissions pour arriver à notre caveau. L'alignement de ces tombes, plus ou moins abandonnées, m'en révélait la largeur. Et comme elle semblait proche de la nature, ou sur le point d'y retourner, elle profilait ce caractère à tout ce petit côté du grand rectangle hérissé de croix. Disparaissant sous les herbes, mangée par des racines d'épicéas rampants, elle contrastait tellement avec les monuments géométriques de l'allée centrale que le cimetière tout entier, ainsi réorienté latéralement, m'apparaissait sous un jour nouveau comme un lieu nouveau. Et le dernier paragraphe. Je revois le geste du skipper lançant mon livre sur le roc. Qu'il n'eût pas eu lieu, l'apparenter à celui qu'avait prêté à mon jeune frère ce rêve qui le montrait, jetant à l'eau ses manuels scolaires, et que maintenant j'aimerais imiter depuis cet endroit où ses pieds rythmaient mon départ, en laissant choir mon volume que je regarderai disparaître dans les profondeurs où il n'y a plus de poissons.
Merci. Merci Eugène. Je me posais une question tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est justement ces voyages successifs à Saint-Pierre et Miquelon, aujourd'hui en fait, ne détruisent pas en quelque sorte ce Saint-Pierre et Miquelon qui a été celui, enfin, qui a été quand même celui de la mémoire et le socle de l'œuvre des mères, hein,
Oui, on pourrait dire ça, mais on pourrait dire aussi qu'il le multiplie. Il le multiplie. À chaque fois, c'est une strate nouvelle. Et comme on sait, bien entendu, la nouveauté fait ressurgir l'ancien aussi. Donc, il y a une espèce de chassé-croisé entre le nouveau et puis ce qui n'avait pas encore été revenu à la mémoire. Je parle dans un passage des eaux territoriales. Précisément, je parle de cette question d'une certaine porte rouge que je revois et qui tout à coup, alors là c'est encore une madeleine, me ramène à une scène de mon enfance que je n'avais pas encore réussi à décrire dans les 5 volumes précédents.
La fameuse scène de l'anniversaire l'ami.
Voilà, je ne suis pas invité à l'anniversaire du fils de l'armateur que je considère être l'un de mes meilleurs copains. Et donc, je me présente à la porte. Je dis, je venais chercher Bernard pour aller jouer. Et sa mère dit, excuse-moi, mais ils sont déjà 12, ça ferait 13 avec toi. Puis l'armateur me fait entrer, viens mon petit, viens, etc. Donc, il y a toute une scène.
Donc l'image, c'est l'image qui appelle l'écriture.
Oui.
Chez Hubert. C'est un peu la même chose, non?
Ah oui.
C'est l'image.
Oui, il y a l'image, ou l'hybridage d'image aussi. Là, j'ai passé en vitesse, mais je dis bien que je ressens en même temps Kyoto, Torin, 1995, et l'Isère, le département de l'Isère glacial de 55. Et comme si la pluie qui tombe avait lavé la réminiscence tropicale pour ne conserver que sa naissance montagnarde.
Puisqu'il s'agit de réminiscence, d'ailleurs j'ai même joué sur la réminiscence, puisque Saint-Pierre est un des hauts lieux de la réminiscence, puisque c'est là, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Pierre, que Chateaubriand, lorsqu'il se rendait en Amérique en 1791, invité par le gouverneur à dîner et invité par le gouverneur à contempler ce qu'il appelait son jardin, le gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui devait évidemment s'ennuyer énormément, comme celui des Kerguelen, il avait cultivé les salades, et là Chateaubriand se penche et il y a un carré de fèves en fleurs. C'est un des Proust disait que c'était l'un des plus beaux passages des mémoires d'autre-temps, et il ressent la senteur des fèves en fleurs qui lui revient donc à la mémoire, parce que ce n'est pas la même senteur que celle des fèves en fleurs en France, car c'est un vent de Terre-Neuve, elle est apportée par un vent de Terre-Neuve. Alors là, j'ai reconstitué tout ça. Jamais je n'avais encore, de ma vie, imaginé, je savais bien sûr que c'était... Je ne m'étais jamais rendu à Saint-Pierre, sur le lieu probable, à 10 mètres près, où cette scène avait eu lieu, et dans les eaux territoriales, tout à coup, j'y suis.
Et c'est un lapin qui vous y conduit,
il me semble. C'est plein de lapins, oui. Alors on s'est demandé pourquoi. En fait, l'instituteur avait donc... avait écrit une vaste scène, un spectacle que nous devions jouer sur la scène de l'œuvre des mères, ce qui n'aura pas lieu parce que l'un de nos camarades mourra à cause de l'instituteur, certainement. Et dans ce spectacle, il y avait des lapins. Pourquoi ? Parce que monsieur ne pouvait pas imaginer que nous n'ayons pas toujours été sur l'archipel. Donc il avait fait une espèce de totem collectif. Des lapins, c'est-à-dire nous, nos ancêtres, lapins, étaient déjà là et regardaient arriver la caravelle de Cartier.
Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc je rappelle les publications d'Uberluco, Je vais, je vis, et puis Autobiogre d'M75 aux éditions POL, et puis Eugène Nicole, Les eaux territoriales aux éditions de l'Olivier. Merci à vous.